par notre propre logique, si ce Dieu, la Samahallah, n'est pas celui-là que nous espérons, le Dieu de la perfection, qui a tous les attributs, eh bien, ce sera pour nous une déception et ne répondra pas à notre attente. Si nous voulons savoir l'illustration, eh bien, voyons les démarches qui ont été celles du prophète Ibrahim, le père du monothéisme. Le Coran a enregistré ses démarches. Il s'est levé, il veut un Dieu parfait qui répond à son attente. Lorsqu'il est malade, il lui donne la santé. Lorsqu'il est pauvre, il l'enrichit. Lorsqu'il est angoissé, il lui donne la confiance. Lorsqu'il a peur, il lui donne la sécurité. Lorsqu'il se sent faible, il lui donne la puissance. Lorsqu'il se trouve dans les ténèbres, il lui donne la lumière, etc. Vous pouvez énumérer tout cela jusqu'à la fin de tous les noms et attributs de la perfection de Dieu que vous connaissez. C'est ce Dieu-là qu'il s'est élevé un jour pour chercher. Dans son intelligence et dans son raisonnement logique. Il a vu une étoile sortir, une nuit, il a regardé l'étoile, il a dit, c'est peut-être ce que je cherche. Ça, c'est mon Dieu. Quelque temps plus tard, l'étoile a disparu. Il a dit, non, ça ne peut pas être mon Dieu parce que cette étoile est éphémère. Mon Dieu ne doit pas être éphémère, il est éternel. Le lendemain, dans la nuit, il regarde le ciel de nouveau, il voit la lune, il voit que c'est plus grand, sa lumière est plus écarlate. Il dit, celui-là est plus grand, c'est celui-là mon Seigneur. Quelque temps après, la nuit aussi a disparu. Il dit non, voilà une autre divinité qui est éphémère, entre guillemets, ce n'est pas mon Dieu. Il attend le lendemain, le soleil qui sort, une grosse boule rose qui commence à monter vers le ciel, qui devient ensuite blanche et qui brille de mille feux. Il dit ça, c'est lui mon Dieu. Le soleil s'est couché, il a dit non, je ne l'aime pas. Je n'aime pas ce qui est éphémère. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a proclamé donc que son Dieu est celui-là qui a tous les attributs de la perfection. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. Allah. C'est ce qu'il a prononcé. Il a retrouvé donc le Dieu qu'il souhaite. Et il a dit, j'oriente mon visage vers celui-là qui a élevé les cieux et la terre, qui a créé les astres, la lune, le soleil. J'oriente mon visage vers lui, je me soumets à lui, et je ne suis pas du tout, je ne serai point du nombre des associateurs de fausses divinités. Voilà la conclusion à laquelle le prophète Ibrahim est arrivé. Et voilà une démarche qui doit être celle de toute personne douée de bon sens. Ainsi donc, c'est cela la perfection. Quand nous regardons le Coran, dans sa forme et dans son fond, puisqu'il vient de Dieu, puisque c'est la parole de Dieu, il doit être parfait, puisque les phrases ont été utilisées par Dieu, puisque le sens que le Coran véhicule vient de Dieu, il doit être donc parfait dans sa forme comme dans son fond. Et cela est tellement vrai que des recherches, des réflexions, des méditations, des études de plusieurs siècles, depuis plusieurs siècles, depuis que le Coran a été révélé, on continue d'étudier, de réfléchir et de méditer sur la perfection du Coran. Et on a analysé le Coran sous toutes ses facettes, de tous les côtés. On a trouvé que c'est la même perfection. Et le même parachèvement. Si nous prenons par exemple la forme du Coran, il y a des gens qui se plaignent pourquoi on ne traduit pas le Coran. Ce Coran qui a été révélé en arabe, il y a des peuples qui ne sont pas arabes, on doit traduire le Coran et il y a des gens qui font campagne par rapport à cela. Et on peut deviner déjà cette campagne-là, d'où vient cette campagne. On peut deviner déjà l'origine de cette campagne. Cette campagne a pour origine des gens qui, en réalité, sont mus par une jalousie. Parce qu'ils n'ont pas un livre comme le Coran. Ils n'ont pas un livre original qui a été révélé. Ils n'ont pas un livre céleste, un livre divin qui est présent dans sa forme originale. Ils souhaitent retrouver, avoir un tel livre, mais ils ne l'ont pas. Et puisque les musulmans en ont, les musulmans l'ont, ils ont le Coran qui est là, dans sa forme originale, tel que Dieu, les mêmes mots, les mêmes virgules, les mêmes énergies, les mêmes émotions que ça contient. Tout cela est encore là, authentique. C'est la raison pour laquelle on fait diffuser dans certains milieux que le Coran, ça ne va pas, chez les musulmans, ça ne va pas, parce que leurs livres, ça ne peut rester qu'en arabe. Or, ça, c'est une forme de colonisation. Ce n'est pas une forme de colonisation, c'est la parole de Dieu. Dieu a choisi la langue qu'il veut pour parler, pour s'exprimer, pour s'adresser à l'homme. Et pour adresser à l'homme, d'ailleurs, sa dernière parole à l'adresse de l'homme, sa dernière volonté à l'adresse de l'homme. C'est la raison pour laquelle, dans sa forme, qui est la forme que Dieu lui a donnée, le Coran est un miracle. Le Coran est la perfection. Alors, si vous voulez, écoutez une psalmodie de... d'un grand lecteur du Coran, tel que Mahmoud Khalil Khusri, rahimahullah, ou bien Abdul Samad Abdul Basit, Abdul Basit Abdul Samad, rahimahullah, ou bien parmi les lecteurs contemporains que nous avons, vous verrez la perfection. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans les détails de la perfection de la forme du Coran. Si vous prenez le fond, c'est la même chose. Le fond également, le sens que le Coran véhicule est également au summum de la perfection. Si vous prenez par exemple les règles juridiques que le Coran contient, que le Coran véhicule, ce que le Coran nous dit, je peux vous donner un seul exemple, mais qui nous illustre la perfection de ces règles que le Coran énonce. Dieu nous dit dans le Coran, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Vous avez très certainement, ô vous qui êtes doués de bon sens, dans l'application de la loi du talion, la vie. Vous avez, dans l'application de la loi du talion, très certainement, la vie. Or, nous savons ce que c'est que l'application de la loi du talion. Par exemple, que Dieu nous préserve, quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre injustement. Selon la loi du talion, une personne qui tue injustement doit être tuée. Donc on lui donne la mort. Et pourtant, à cette personne, cette opération qui consiste à donner la mort à quelqu'un qui a donné la mort, Dieu nous dit que ça donne la vie. N'est-ce pas? Alors comment expliquer cela? Il s'agit tout simplement d'analyser l'application de la loi du talion est une force de dissuasion. Parce que l'islam, dans son système, a un certain nombre de démarches pour construire l'être humain, pour édifier l'homme, pour faire de lui un être humain véritable. Un être humain véritable, c'est cet être humain-là qui est utile à lui-même, utile à sa communauté. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, le meilleur d'entre vous, c'est cette personne-là qui est utile à sa communauté. C'est-à-dire que le degré d'utilité d'un être humain, c'est son degré d'utilité vis-à-vis de sa communauté. Donc, le vrai musulman, le vrai croyant, l'être humain qui ressent véritablement de cette appellation, il doit donner la vie à sa communauté au lieu de leur donner la mort. Il doit construire sa communauté, il doit édifier, il doit appliquer donc les règles de l'islam, de solidarité, de fraternité, de compassion, d'amour vis-à-vis des autres membres de sa communauté. Il donne la vie, il ne donne pas la mort. L'islam a tout un ensemble de démarches pour construire donc l'être humain. Que tout cela se trouve, c'est le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les commandent. D'abord, l'islam a son dogme. Le dogme, la profession de foi ou l'acte de foi de l'islam qui fait que le musulman, le croyant musulman, croit d'abord en Dieu. Il sait que d'abord, il y a un Dieu qu'il a créé et qui a créé tout ce qui est autour de lui, c'est-à-dire toutes les autres créatures. Deuxièmement, il sait que puisque c'est ce Dieu parfait de la perfection, de l'omniscience et de tous les autres attributs de la perfection qu'il a créé, donc ce Dieu, c'est lui seul qui mérite d'être adoré, c'est-à-dire qui mérite d'être déifié. Troisièmement, ce Dieu, il le connaît, il le découvre, il sait qui il est à travers ses noms et ses attributs de perfection. C'est cela donc la foi en Dieu. Et les attributs de la perfection de Dieu, si vous les citez, vous verrez en ce moment devant vous qui est ce Dieu. Pourquoi c'est lui seul que nous devons adorer. Un Dieu de la perfection qui, si nous pouvons citer certains de ses attributs, il est plus proche de vous que votre veine jugulaire. Dieu, subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs de la perfection, il est plus proche de l'être humain que sa veine jugulaire. Votre cœur ne bat pas sans qu'il l'autorise. Chaque battement du cœur se fait par autorisation de Dieu. Rien ne descend. Une feuille, Dieu nous dit, pas une feuille ne tombe d'un arbre. C'est le vent qui l'a soufflé, la feuille, une feuille desséchée par exemple, qui tombe de l'arbre. Cette feuille ne tombe pas sans la permission de Dieu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. C'est pour vous donner des exemples, des attributs de la perfection de ce Dieu qu'il nous est demandé d'adorer, à qui il nous est demandé de nous soumettre. C'est lui donc qui nous donne la vie, notre respiration. L'air que nos poumons aspirent et le gaz carbonique que nos poumons rejettent, le battement de notre cœur, notre circulation sanguine, tout ce qui bouge à l'intérieur de la cellule, le noyau, ce qui fonctionne à l'intérieur, tout cela ne se fait pas sans l'autorisation de Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Alors, donc, voilà une idée que nous avons justement de ce Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors, dans le fond donc, si nous prenons par exemple dans le fond du Coran un exemple de règle juridique, Dieu qui nous dit donc que dans l'application de la loi du talion nous avons la vie, si nous prenons les dispositions que le système de l'islam prend, la foi en Dieu suivi ensuite de la foi en l'existence des anges. Ça, c'est encore un autre grand pilier de la profession de foi musulmane, l'existence des anges, qui sont plus nombreux, qui sont une fois plus nombreux que les êtres humains, qui sont avec nous, qui vivent avec nous. Chaque être humain ayant, par exemple, deux anges autour de lui, qui enregistrent ses actes. Et que le jour des comptes, le registre qui a été préparé par ces anges sera déployé et que chacun verra ses œuvres. Ils vont témoigner et du témoignage le plus éloquent parce qu'il ne s'agit peut-être même pas d'un livre, d'une feuille sur quoi on écrit, mais ça peut être un témoignage à trois dimensions où vous vous voyez en train de faire vos actes. Et il y a plus encore, le prophète nous rapporte dans un hadith alayhi salatu wassalam, que devant ce témoignage éloquent, si les mécréants disent qu'ils ne sont pas d'accord, Dieu leur apporte un autre témoignage. Il leur dit, quel témoignage voulez-vous? Qui voulez-vous qu'il soit témoin pour vous? Le mécréant dira, il veut être son propre témoin, ce que nous n'avons jamais vu. Témoigner pour soi-même, en sa faveur. Dieu accepte, subhanahu wa ta'ala. Et Dieu demande à la bouche de se fermer, de se taire. Et demande aux autres organes donc de parler et de témoigner. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Les bouches se taisent et les organes qui ont fait leur forfait commencent à témoigner, parlent. Évidemment, il répond, il fait des reproches à ces organes. لما شهدتم علينا. Nous, on est en train de vous défendre et voilà que vous témoignez contre nous. Et aussi de répondre. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. C'est Dieu qui a donné la faculté de parler à tous qui parlent, qui nous a fait parler. Nous n'avons pas le choix. La foi en l'existence des anges qui sont autour de nous, ceux qui sont au paradis, ceux qui sont qui gardent l'enfer, ceux qui donnent la mort, comme l'ange de la mort, qui est un ange, un messager de Dieu, qui vient prendre la vie des êtres humains sur ordre de Dieu, à un moment précis. Ce n'est pas, nous le savons tous, ce n'est pas être malade qui donne la mort. Et ce n'est pas être en bonne santé qui donne la vie. On meurt même si on est en parfaite santé lorsqu'il est l'heure. Je me souviens à cette occasion des gens qui étaient avec nous l'année dernière, à cette même occasion, qui étaient bien portants pourtant, et qui aujourd'hui ne sont plus avec nous, que Dieu les couvre de sa miséricorde. Parmi lequel un frère qui est mort il y a juste quelques semaines. L'année dernière, il était assis presque là devant moi. Et pendant la prière, il était à la première rangée, peut-être juste derrière moi, qui est mort par accident il y a quelques semaines. Que Dieu les honore et les couvre de sa miséricorde. Donc, par exemple, l'ange de la mort, qui est un messager de Dieu, qui agit sur ordre de Dieu. Je parle de l'ange de la mort pour que nous nous rappelons un temps soit peu de cela, de cette mort qui attend chacun de nous, et pour laquelle il est important que chacun se prépare. Et à ce propos, je crois que je vais rappeler une petite épisode qui s'est passée au temps du prophète Souleyman alayhi salam. On rapporte que le prophète Souleyman était un jour dans son majlis, autour de lui il avait ses compagnons. Lorsque un homme était rentré et il est venu tout près de lui, il a commencé à chuchoter dans ses oreilles, dans les oreilles du prophète Souleyman, tout en regardant dans l'assistance quelqu'un, en fixant quelqu'un qu'il a choisi dans l'assistance. Et ensuite il s'est retiré. Il a donc échangé des mots avec le prophète Souleyman, ensuite il s'est retiré. Immédiatement après cela, la personne qui était fixée par cet étranger s'est précipité vers le prophète pour lui dire, moi je ne comprends pas, quelqu'un qui ne me connaît pas, je ne l'ai jamais vu, il vient, il me regarde, il me fixe. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète lui a dit, c'était l'ange de la mort. C'était l'ange de la mort qui était venu et il m'a dit que Dieu lui a donné ordre de prendre ton âme. Mais le prophète s'est arrêté là. La personne a pris de peur et immédiatement a demandé au prophète Souleyman. En réalité, ce que l'ange disait au prophète Souleyman, qu'il n'a pas complété, il lui disait que Dieu lui a dit de donner la mort à cette personne-là, mais à cet instant même, mais pas ici en Palestine, parce que c'était en Palestine, à Al-Quds, mais en Inde. Alors il est dans un dilemme, il a un problème. Il ne sait pas comment exécuter cet ordre de Dieu. La personne est là devant lui, devant le prophète Souleyman, ici à Al-Quds, à Jérusalem. Or, Dieu lui a donné ordre d'enlever son âme en Inde, pas ici, et maintenant, sans attendre. Vous savez ce que Dieu a dit dans le Coran, parmi les cinq choses qui sont cachées, « وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ » Aucune âme ne sait sur quelle terre elle doit mourir. Parce qu'il faut que la terre soit choisie. Là où on doit mourir, quelle que soit la cause, on ira là-bas et l'ange de la mort trouvera la personne là. Alors lorsque le prophète Souleyman a dit cela à l'homme, vous savez que le prophète Souleyman, le Coran nous l'a dit, il avait la maîtrise du vent, des forces éoliennes. Il a dit au prophète, moi je ne peux pas rester ici, j'ai peur parce qu'il peut revenir encore. Alors le prophète lui a dit, parce que le prophète a dit à l'ange, il lui a parlé en croyant. Il lui a dit, c'est Dieu qui t'a donné ordre de faire ça, tu es un croyant, tu dois exécuter l'ordre de Dieu. Tawakkal Allah. Il lui a dit de se confier à Dieu. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ أَوْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quiconque se confie à Dieu, Dieu lui trouvera une solution. Confie-toi à Dieu. L'ange s'est retiré. Et lorsqu'il a donné cette information à l'homme, l'homme lui a dit de lui trouver une solution, il veut s'enfuir. Il ne peut pas rester là-bas. Il lui a dit, alors qu'est-ce que tu veux? Il dit, bon, moi je veux voyager. Où tu veux aller? Il dit, tu vas fuir, il va même. Suleyman a donné ordre au vent de le transporter. Le vent l'a transporté et en quelques instants, il s'est retrouvé en Inde. Et là où il est arrivé, il a atterri, c'est là qu'il a trouvé l'ange. Donc, qui a exécuté l'ordre de Dieu. La foi en l'existence des anges, un pilier important de la profession de foi musulmane. La foi aux livres révélés par Dieu. C'est tous les livres qui ont été révélés. Nous, les musulmans, nous sommes tenus d'y croire. Ou du moins, à leur forme originale, authentique. Pas les formes altérées que nous avons aujourd'hui. Nous croyons à l'évangile qui a été révélé au prophète Isa ibn Maryam. Mais pas à l'évangile selon Marc, ou selon Matthieu, ou selon Luc, ou selon Jean. Mais nous voulons l'évangile selon Jésus lui-même, selon Isa ibn Maryam lui-même. À cela nous croyons. De la même manière, la Torah qui a été révélée sur le prophète Moussa ibn Imran, nous y croyons également, mais dans sa forme originale, ainsi de suite. Ça, c'est extrêmement important. La foi aux prophètes eux-mêmes, nous croyons à tous les prophètes et à tout ce qu'ils ont apporté. Mais pour les livres, tout en croyant au caractère divin de ces livres, tout en croyant que c'est la parole de Dieu, nous croyons également que tous ces livres ont été abrogés par le Coran. Ça, c'est extrêmement important pour un croyant. C'est de cette manière qu'il faut comprendre. Dans la suite, la succession de la révélation des livres, il y a en même temps une abrogation. Le Coran a tout abrogé. C'est le Coran qui est actuel, c'est la dernière volonté de Dieu sur la terre. Si là-bas on parle de Nouveau Testament, nous nous parlons de Dernier Testament. C'est la dernière volonté de Dieu sur la terre. De la même manière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est le quatrième pilier de la profession de foi musulmane, le quatrième sous-pilier, si vous voulez, de ce pilier qui est la profession de foi musulmane, nous croyons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu fermer la marche de la prophétie, il est venu sceller la prophétie, c'est le sceau de la prophétie. Il n'y a aucun prophète après lui, et il a abrogé la mission de tous les prophètes qui l'ont précédé. Et au point qu'il a juré que si Moussa ibn Imran apparaît au moment où il parlait, où il était encore vivant, et même aujourd'hui après, il n'aura pas d'autre voie que de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de suivre le Coran. Nous avons le cinquième pilier de la profession de foi musulmane. C'est certains rappels que je suis en train de faire pour illustrer quelque chose de bien précis, qui est donc la foi au jour dernier. Voilà un autre pilier extrêmement important. Pourquoi croire, avoir foi au jour dernier a une grande importance pour l'être humain, pas seulement pour les musulmans, mais pour tous les êtres humains? Simplement parce que si nous comprenons le fonctionnement, qu'est-ce qui se passera à ce jour dernier? On nous dit qu'à ce jour dernier, qu'on appelle, parce que le jour dernier a plusieurs noms dans le Coran, on l'appelle le jour de la rétribution, par exemple, le jour des comptes, n'est-ce pas? Tout ce que nous aurons œuvré dans ce monde d'ici-bas sera montrer le jour des comptes, sera mesuré, sera pesé, et chacun sera rétribué selon ses actes bons ou mauvais. Voilà son importance. Parce que quelqu'un qui croit à cela, il va moduler son comportement de tous les jours. Il va se dire que puisqu'il rendra compte, et qu'il ne peut rien cacher de ce qu'il fait. Parce qu'effectivement, les mécréants diront ce jour-là, « Ya waylatana ma li hadha al-kitab, la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. » Ils vont dire « Malheur d'eux, voilà un registre qui ne laisse rien, petit ou grand, qui n'est comptabilisé et qui n'est présent devant eux. » Donc, lorsqu'on croit à ce jour-là, on se dit que donc je ne dois pas faire du mal, je dois multiplier les bonnes œuvres. Le prophète a dit, alayhi salatu wasalam, le jour des comptes, ou après la mort, lorsqu'un être humain meurt, il regrette, chaque être humain regrette, exprime un regret. Pourquoi il n'a pas multiplié les bonnes œuvres? Même le martyr qui rentre au paradis sans compte, sans comptabilité, souhaite mourir, c'est-à-dire souhaite bénéficier du martyr plusieurs fois. Il se dit, si seulement je pourrais retourner dans le monde et mourir encore en martyr une deuxième fois, retourner ensuite et mourir en martyr jusqu'à plusieurs fois. N'est-ce pas? Alors donc, c'est ça l'importance de la foi au jour dernier, c'est la raison pour laquelle le prophète dit « Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayran aw liyasmut » Le prophète énumère les deux sous-piliers de la profession de foi musulmane. Quand il veut inviter à faire une bonne œuvre, une œuvre spéciale, quiconque parmi vous croit en Dieu et au jour dernier. Qu'il honore son hôte, qu'il honore son voisin, qu'il dise une bonne parole ou qu'il se taise. En laissant les autres qui sont sous-entendus en fait. Alors, j'ai énuméré ces sous-piliers de la profession de foi musulmane tout simplement pour montrer le filtre que l'islam utilise pour construire l'homme, pour construire le citoyen, pour qu'il soit un être humain véritable qui répond véritablement de cette appellation, utile à lui-même et utile à sa communauté. Le premier filtre, c'est le filtre du dogme de l'islam, c'est-à-dire de la profession de foi musulmane. Quelqu'un qui croit à ces six piliers que nous venons d'énumérer, le sixième pilier que je l'ai peut-être oublié, c'est la foi en la prédestination. Croire à la prédestination, c'est être fort, c'est ouvrir de très grands horizons devant soi. Parce que on se met au-dessus d'un certain nombre de contingences. On se dit, puisque Dieu, c'est Dieu qui détient mon âme, puisque ce que je dois être, Dieu l'a déjà prédit, donc je ne dois pas avoir peur de X ou de Y qui me menace de ne pas m'aider ou bien de ne pas me donner ce que je veux. C'est Dieu qui me donne. Si je n'ai pas, ça a été décrété par Dieu. Si je dois avoir peur, je dois avoir peur seulement de Dieu. Si je dois espérer, je dois espérer seulement de Dieu. Ainsi de suite. Donc ça nous donne une force. Ça nous donne une certaine indépendance vis-à-vis des créatures de Dieu. Ça nous donne une force et ça nous donne de l'espoir. Alors lorsqu'on croit à ces six piliers ou ces six sous-piliers, du premier pilier de l'islam qui est la profession de foi musulmane, alors on passe par un filtre important. Et ensuite, on passe par le deuxième filtre. Le deuxième filtre qui est le filtre de l'éthique de l'islam, de la morale de l'islam. N'est-ce pas? Cette morale de l'islam par rapport à laquelle le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, le jour des comptes, il n'y a pas quelque chose qui pèse plus lourdement sur le plateau de la balance des bonnes œuvres que les qualités morales. Si vous prenez deux personnes, une personne qui fait seulement ce qui est obligatoire, les prières obligatoires, le jeûne obligatoire, c'est-à-dire, je veux dire, deux croyants, dont un parmi eux ne dépasse pas ce qui est obligatoire. Les prières obligatoires, le jeûne obligatoire, la zakat, ce qu'il doit prélever obligatoirement, donc il ne fait pas l'aumône surérogatoire, le pèlerinage obligatoire, par exemple, mais qui a des qualités morales, qui cultive l'altruisme, qui a la compassion vis-à-vis des autres, qui n'a pas d'inimitié dans son cœur contre les autres, qui est solidaire des autres, qui est fraternel vis-à-vis des autres, qui partage ce que Dieu lui a donné avec les autres, qui souhaite pour les autres ce qu'il souhaite pour lui-même. cette personne-là, plus une deuxième personne qui est croyante, qui fait les actes obligatoires et qui fait beaucoup d'actes surérogatoires, mais qui n'a pas de qualité morale, qui ne cultive pas les qualités morales. Si vous prenez ces deux personnes-là, vous verrez que dans le premier cas, cette personne-là a plus de mérite auprès de Dieu que la deuxième personne, qui pourtant est musulmane, fait les actes surérogatoires, mais qui n'est pas à cheval, suffisamment à cheval sur les qualités morales. Donc la morale de l'islam, l'application de la morale est extrêmement importante. Et d'ailleurs, au point que le prophète, alayhi salatu wasalam, à propos de lui, Dieu a dit, ou c'est le prophète lui-même qui a dit, « Bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. » J'ai été en réalité envoyé par Dieu pour venir parfaire les qualités morales. C'est-à-dire pour venir exemplifier dans mon comportement de tous les jours les qualités morales. Au point que le hadith que nous avons déjà vu, ou l'information qui nous a été donnée par Sayyida Aïcha, radiallahu ta'ala anha,